Tour. It's in the game.
C'est parti pour Press Start.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Press Start, votre rendez-vous sur le jeu vidéo. Philippe au micro et nous sommes en direct sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Évidemment, l'émission la plus professionnelle que vous écouterez dans cette radio.
Oh, c'est pas gentil pour les autres.
Oui, mais non, mais parce que vu ces dernières semaines, je pense qu'on est bon là. On est très très bon.
Hey, mon micro marche.
Et ton micro marche parce que j'ai mis le bon micro cette fois-ci. Limite, je me suis fait une checklist de tout ce que je dois faire.
Il a un petit papier devant lui.
J'ai un petit papier avec ma checklist. Alors, au programme de cette émission, on aura l'update, donc les dernières infos, les aventuriers de la Playhistoire, où je vous ferai la présentation d'une franchise très connue du cinéma, qui est en ce moment à l'affiche. Il y aura peut-être un petit quiz, hein. On va essayer de faire ça pendant l'émission. Il y a la sélection musicale, et évidemment, je ne suis pas tout seul. Vous avez reconnu cette voix suave et digne de l'ASMR, Tony.
Bonjour.
Et on attend, il y a Tic et Tac, mais sauf que Tac, il n'est pas encore arrivé, c'est Charles, qui va arriver incessamment sous peu quand il sera sorti des bouchons.
Ah, mais tu sais, le grand Charles, c'est comme Gandalf. Il n'est jamais en retard, ni en avance. Il est toujours à l'heure.
C'est ça.
Quand il doit arriver. C'est dommage qu'il ne partage pas le même fuseau horaire que nous.
Bah, quelque part dans le monde, c'est la même heure que lui.
Hein. Oui, oui, c'est sûr. Hein,
Donc Charles arrive incessamment sous peu. Charles, si tu nous écoutes, on pense bien à toi et dépêche-toi un petit peu.
Ah oui, Charles, je pense très fort à toi.
Eh ben, on va commencer cette émission par l'update.
C'est l'update.
Alors, une actualité jeu vidéo chargée, mais... Qu'est-ce que toi tu as trouvé ? Est-ce que tu as trouvé une info ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, ne laisse pas sous-entendre que je ne prépare rien.
Bon, dix minutes avant, on avait quasiment...
Non, écoute, ils n'ont pas besoin de savoir la réalité. On le dit suffisamment, ils n'ont pas besoin de savoir en plus. Alors, en fait, bah oui, si tu me laisses commencer, je vais commencer. Hein, merci. Écoute, ça veut dire aussi qu'il n'a pas sa news, je vous le dis. Hein. le 8, le 8 octobre, sort enfin Metroid Dread. Alors, Metroid Dread...
Et Charles vient d'arriver, Charles est parmi nous.
Le grand Charles.
Gandalf est parmi nous.
Bonjour Charles.
Ton micro il n'est pas encore allumé.
Vas-y, recommence, hein. Recommence, vas-y.
Vas-y. Bonjour Tony.
Tous tes tags sont là.
Alors, donc oui, je disais, le 8 octobre sort Metroid Dread. Metroid Dread qui est, je crois, attendu par aussi le grand Charles en face de moi.
Tout à fait. J'ai reçu le mail qui disait qu'il arrivait dans ma boîte aux lettres bientôt.
Ah, d'accord, parce que moi, je sais pas. Moi, il arrive entre le 8 et le 12, le mien, tu vois. Donc,
d'accord.
Après des années, parce que je rappelle que Metroid Dread c'était un projet DS, donc ça a fait du chemin quand même. Hein. En fait, à l'origine, c'est un projet qui a été annulé par Nintendo, puis ils sont restés dans les cartons, puis la franchise Metroid, c'est toujours compliqué, c'est-à-dire ils sortent Metroid, parce que c'est pas tout jeune, hein, c'est quand même la Famicom, techniquement, le premier, sur Famicom Disk System. Pour la petite histoire, j'ai un exemplaire de Metroid sur Famicom. Et voilà, donc suivi ensuite de Super Metroid, qui est trop bien parce qu'en version japonaise, sache que tu as la possibilité de jouer en anglais. Ce qui permet de jouer
un
jeu
peu l'histoire
pour pas très cher, hein, parce qu'il est pas si cher que ça au Japon, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc c'est une série de jeux qui est quand même assez légendaire. Ma génération le connaît peut-être plus pour l'épisode Prime sur GameCube, qui est en vue première personne. Et ce Metroid Dread, en fait, fait un pari un peu différent, de faire un retour à la... Alors, 2,5D, parce que techniquement, on la suit sur un axe horizontal, est vertical, mais il n'y a pas de profondeur. Donc en fait, mais les décors, eux, sont en 3D. Et du coup, là, en fait, on a les reviews qui tombent de Metroid Dread, le 6, là, donc c'est assez logique. Hein. Et en fait, actuellement, la moins bonne note que j'ai vue, c'est Gamekult. Alors, c'est logique, parce que c'est Gamekult. ils sont durs, alors ils sont, moi j'aime bien dire, sévères, mais justes.
Contrairement à d'autres.
Et...
dont on ne tira le nom.
Alors, c'est un acronyme de trois lettres souvent, mais.
qui ressemble vaguement à une vieille marque de Hi-Fi.
Ouais, de exactement. Exactement. voilà, donc les notes, globalement, commencent à tomber. Donc, naturellement, aucun rapport avec ce que vient de dire mon ami Philippe. JVC vient de mettre la modique note de 18 sur 20 tout de même. Alors, 18 sur 20 sur JVC, c'est l'équivalent de. Pas 18 sur 20 dans la vraie vie, hein. C'est un peu facile de donner, mais globalement, pour donner l'idée, je crois que j'ai vu 9 sur Gameblog. Alors, Gameblog, c'est. C'est comme JVC, hein.
Oui, voilà.
Après, j'ai vu des sites que je regarde moins, qui sont pas forcément spécialisés dedans, mais qui filent de bonnes notes. J'ai vu aussi le Journal du Geek qui file 9,5. Enfin, bref. Donc, a priori, on est parti sur un plébiscite. Moi, perso, j'en attendais pas moins, d'autant que c'est les mêmes gars qui ont fait Metroid Returns sur 3DS, qui, pour la petite histoire, partageaient un petit truc qui est commun avec ce Metroid Dread, une distribution catastrophique des éditions spéciales.
Ah ouais.
Parce que peut-être n'êtes-vous pas au courant, mais l'édition spéciale de Metroid Dread, c'était une blague pour essayer de l'avoir. Mais une blague absolue. Moi, je l'ai longtemps eu sur Amazon Espagne. Et j'ai réussi à le choper sur Cdiscount il y a 2 jours.
Ah
donc
oui.
Vraiment, ça joue à. Oui, parce que si t'attends la version normale, bah, y a pas de souci. En fait, les stocks, ça, y a pas de problème. Mais si tu veux l'édition avec le steelbook et tout, parce que tu aimes appartenir à une frange supérieure pour regarder les pauvres d'en haut.
Exactement.
Et que t'aimes bien mettre plus de pognon pour finalement pas grand chose en réalité. Tu galères. Et Metroid, c'est spécialisé là-dedans, puisque Metroid Returns, pareil, l'édition spéciale, avec son petit steelbook, concrètement, fallait se battre pour l'avoir. Mais vraiment, littéralement, se battre. Donc du coup, je suis assez content de l'avoir. Je suis ravi des retours. De toute façon, même si les retours avaient été plus mitigés que ça, je m'en fous, parce que je l'aurais quand même fait, parce que très clairement, les avis presse, avec le temps, j'ai appris à m'en détacher un peu, pour faire un peu plus mon opinion, parce que parfois, on a des petites surprises. Voilà. Donc voilà, bon... Voilà, donc je suis assez impatient de mettre la main dessus et je pense que je suis pas le seul et je pense qu'on fera peut-être un truc en duo.
Carrément, ouais, carrément.
Un cross-test.
Exactement, bah, on verra si on a le temps de le finir d'ici là quand même. Quoique, ils disent quand même que la durée de vie est assez courte.
Ouais.
Ouais, entre 7 et 9 heures. Donc voilà.
C'est pas si mal.
Oui.
Pour un jeu que tu attends depuis la DS, tu t'attendais peut-être un peu plus.
Ouais, mais après, surtout que les Metroid, c'est quand même assez long d'habitude. Hein. Enfin, c'est tortueux, hein, donc.
Ouais, et puis ça peut être dur, quoi. Donc après, ça
alors,
dépend.
Apparemment, il est dur en plus.
Ouais, ça dépend du niveau du joueur, quoi. Quand ils annoncent 8-9 heures.
Ouais, je suis parti pour.
J'en rajoute quelques-unes quand même, tu vois.
Donc voilà, bah, je suis assez impatient.
Charles, est-ce que tu as une info
Oui, alors le 8 octobre sort Metroid Prime.
Alors Metroid, non, c'est Metroid Dread, s'il te plaît. Metroid Prime, voilà. Il est sorti il y a longtemps.
je savais que tu l'as fait de toute façon. Mais...
Ah, désolé. Hein.
Bon, bah alors, moi, mon info, c'est une info, je pense, va rentrer dans les annales des grandes infos du jeu vidéo,
voilà.
Ou semblant. 3 voleurs anglais, âgés de 29 à 33 ans, utiliser un appareil d'une valeur de 20 000 livres, hein, ce qui fait à peu près 40 000 euros.
Non, c'est ouf, ça fait un peu moins de 30 000 euros. 27 000 euros.
27 000 euros, on va dire une 30 000
ouais,
euros.
Ouais, trop cher, quoi.
Pour pirater l'accès de voitures, souvent sans clé.
Ah.
Ce qui est bien.
C'est pas
ce
mal.
Pas bien, d'ailleurs.
Oui, mais ça a l'air lucratif.
Ça a l'air lucratif comme truc. Plus précisément, il donne la marque de la voiture, on va dire que c'est une marque japonaise qui commence par Mitsu et se termine par Bichi. Hein.
Ah, d'accord. Ouais.
Donc le 4x4, hein, donc, pour ceux qui connaissent, dont la valeur à l'unité est aux alentours des 40 000 livres, donc 47 000 euros à une vache près. Hein,
ouais, c'est bien en fait. C'est un bon rapport de retour financier.
Les circonstances de l'arrestation nous importent peu ici, ce qui va de soi, puisqu'on parle de jeux vidéo, mais... Là où ça y a un lien avec le jeu vidéo, c'est que l'outil utilisé ressemble à la première Game Boy de chez Nintendo. Croix directionnelle, forme, bouton start et select, emplacement du haut-parleur, tout y est. La police, qui est évidemment la police britannique, est une grande experte des jeux vidéo, oui. Ça va de soi.
Bien sûr.
A été très étonnée de voir cet objet. Et c'est surtout quand ils ont commencé, il y en a peut-être un qui a vécu dans les années 80, était gamin dans les années 80-90, il s'est dit, il n'y avait pas quatre boutons sur le côté droit de la Game Boy, il y en avait que deux d'habitude, il y avait A et B.
Elle faisait pas 10 kilos.
Elle faisait pas 10 kilos.
Et puis il fallait 4 piles, et puis ça n'était pas de taxer les Tesla.
Et le truc, en fait, c'est que, parce qu'en fait, il y a quatre boutons. Donc, il y a le bouton A et B traditionnel, mais il y a également le bouton X et Y. Donc, c'est un crossover PlayStation.
Non, tu sais, c'est ces répliques là, de Game Boy qui existent avec des écrans OLED nickel, là, où ouais. En fait, tu mets un Raspberry Zero dedans, et après,
ouais, ça
tu
forme,
émules
ouais.
En fait, toutes les consoles. De, voilà. Et en fait, c'est une forme de Game Boy, mais avec un écran, mais parfait, quoi.
Et donc, bah, évidemment, si vous voyez la photo que vous trouverez sur un site dont... Les initiales, c'est une ancienne marque de Hi-Fi très connue. Vous pourrez voir l'image de cette console, enfin de cet objet, parce que c'est une console, on ne sait même pas si c'est une console. Et on remarquera, bah oui, il y a le bouton X et Y, le bouton central non identifié, donc un peu comme sur la manette PlayStation, hein, bouton central, et le décalage des boutons Start et Select. Bon, là, par contre, il faut être vraiment geek pour savoir. Alors, en fait, non, ils sont décalés de 2,5 cm.
Ça change tout, hein, dans la
ça change tout. L'essentiel y est, donc cette Game Boy très spéciale, ils s'en servaient pour déverrouiller les véhicules ciblés et les démarrer en moins d'une minute, selon la police locale.
Eh ben.
Donc voilà, si vous avez une vieille Game Boy, ne volez pas de voiture.
En tout cas, c'est pas mal, les bagnoles à clé, hein, finalement.
C'est finalement, ouais. Ouais, c'est ça un peu la morale de cette histoire.
Gardez vos bagnoles à clé.
Et je me demande si c'est pas le même stratagème qui a été utilisé l'année dernière, quand ils ont commencé le tournage à Londres, de Mission Impossible 8, parce que oui, il faut bien... on parlera aussi des jeux Mission Impossible un jour. Et de la Game Boy, la 64. Et Tom Cruise s'était fait voler la voiture et ses valises dedans, devant la sécurité, et la police ne sait toujours pas comment ils ont fait. Donc, regardez les Game Boy, les gars, peut-être il y a un truc.
Alors après, je tiens quand même à dire aux voleurs, je ne suis pas convaincu que c'est une très bonne idée, s'il y a quelqu'un à voler, de voler Tom Cruise... Parce bah, qu'il est un peu vénère, le petit bonhomme, quand tu vois sa filmo. Hein.
En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est qu'ils ont retrouvé la voiture, mais pas les valises. Donc, peut-être que sur le bon coin, vous allez trouver le slip de Tom Cruise. Donc voilà, pour l'info totalement inutile.
Eh ben, c'est parfait.
Bah, voilà. On va faire la première pause musicale. On va écouter Robert Parker et Arcade Oliver. We'll be right back.
bientôt l'heure.
Et oui, c'est bientôt l'heure. Bonjour Tony. Vous êtes de retour dans Prestart sur Radio Campus Tour 99.5. On va enchaîner avec Tony dans le One Up.
Tony.
Les jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des Mopworgs.
Hey, t'es pas sorti de ton igloo depuis perpète.
Les Mopworgs étant le nom barbare.
La ferme crétin.
Qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels.
Mm-hmm.
Ça s'appelle comme ça, je suis désolé.
Mais ça s'écrit comment?
Ça s'écrit MMMPORPG.
Alors non, ce n'est pas MMMPORPG.
Ça, c'était de l'acronyme, mine de rien. Et maintenant, moi, je vais vous parler de vrais jeux. Hein, on va parler de RPG. Hein,
là, t'as tous les
je m'en fous.
De...
Je m'en fous.
Qui sont dehors.
Je m'en fous. Je vous attends.
Vas-y, venez, venez. On leur file l'adresse de Radio Campus. Vas-y, venez tous, là, maintenant.
Bah,
on est trois.
Un par un, comme dans Final Fantasy VII. C'est-à-dire avec une barre et vous m'attaquez au fur et à mesure, apparemment.
Quand même, bon.
Puis ils savent pas qu'on est que trois.
Donc, moi je vais vous parler, je vais vous faire le test d'un jeu que j'ai fini il y a quelques jours et je voulais le terminer avant d'en parler. On va faire juste un petit peu d'introduction. Je vais peut-être vous surprendre, mais j'aime pas l'alcool. Je déteste ça, j'aime pas le goût. En fait, il y a une toute petite poignée d'alcool que je tolère, mais
et
j'aime pas ça.
Et pour faire plaisir aux nos amis du
à CSA, consommer avec modération. Figure-toi que je l'avais noté dans mes documents.
Bien, oh là là. Ça c'est beau, ça c'est pro.
Exactement.
Là, quand je te dis l'émission la plus pro.
Exactement.
Donc oui.
Oui, Charles. Pour toi, je ferai un effort.
Donc, c'est dans la version 3X disponible
c'est
sur le Patreon.
C'est minuit. Hein. Donc, voilà, y a très peu d'alcool que je tolère. Il y en a très très peu. Pourtant, j'en ai plein à la maison, mais j'en bois pas. Voilà. Par contre, je suis totalement fasciné par la culture autour de la consommation d'alcool. Moi, ça me fascine. Alcool à consommer avec modération.
Toujours.
Alors moi, si on me propose un jeu vidéo où l'alcool est prépondérant dans le gameplay pour raconter quelque chose, j'achète. Et ça tombe bien. Je l'ai acheté sur Switch, il s'appelle After Party, et il est très probable que les scénaristes du jeu ont bu avant d'envisager le pitch de départ. Alors on va faire un petit tour du propriétaire avant d'aller dans le vif. After Party, c'est un jeu de Night School Studio qui vient d'ailleurs d'être racheté récemment par Netflix, vous avez peut-être passé vu l'information
passée. Oui, c'est vrai, oui. Netflix veut faire du jeu vidéo.
Il commence par un groupe qui est pas mauvais, mais on va en reparler. Donc Night School Studio, c'est les anciens de chez Telltale et Disney Attack Studio, qui ont sorti jusqu'ici un seul... Techniquement un peu plus, mais un seul vraiment gros jeu, qui a eu un bon succès critique commercial, qui s'appelle Oxenfree, qui j'arriverai pas à le décrire, mais en gros, c'est une histoire avec des adolescents sur une île qui captent un signal radio qui renvoie vers le passé. Donc voilà, j'en dis pas plus parce que j'ai pas eu le temps de finir le jeu de mon côté, il me disait bien aussi.
Un test partiel.
Et il y a le 2 qui sort bientôt.
Et il y a le 2 qui sort bientôt, exactement.
La musique est excellente.
Et c'est pour ça qu'il faut que je finisse Oxenfree à l'occasion. Donc bref, c'est sorti, le petit jeu, là, mon petit After Party est sorti sur PC, PS4, One et Switch, et moi je l'ai sur Switch en version physique s'il vous plaît. Bon alors, on va faire le scénario brièvement, vous allez comprendre pourquoi je disais que je pense qu'il y a eu de la picole. Vous jouez Milo et Lola, ces deux jeunes adultes qui viennent juste de finir leurs études à l'université, et lors de leur soirée de fin d'études, qui est plutôt naze, en fait ils découvrent que, ils sont morts.
Ah, papa.
Et en fait ils sont en enfer.
Ah, merde. C'est encore mieux.
En fait, cette soirée, c'était juste une mise en scène des démons pour les faire chier. Enfin, punir leurs âmes, excusez-moi.
Ouais.
Oui.
Du coup...
Soyons précis.
Non, mais il faut utiliser les bons termes, je vous rappelle. Écoutez, dans la Bible, c'est écrit clairement, voilà. Ouais. Les démons sont là pour punir les âmes, voilà, point.
Voilà.
Écoutez, ma théologie se limite à la série Lucifer. Donc, du coup, l'enfer, c'est comme l'administration française. On doit suivre un chemin précis. On va à l'accueil pour qu'on nous dise quelle sera votre punition éternelle jusqu'à 17h. Parce qu'après ça ferme. Manque de bol, pas de sentence parce que le démon en charge des attributions de peine a fini sa journée, donc on se revoit demain. Milo et Lola se retrouvent dans la nuit, en enfer, à essayer de voir si ce qu'on leur dit est vrai. Pour quitter l'enfer et revenir sur Terre, chez les vivants, il faut battre Lucifer à un jeu d'alcool. Ou, comme le jeu le dit, Out Party, The Prince of Party.
Oh, nice.
Wow.
Ah ouais, que ça donne envie.
Ça s'appelle.
Ah,
Oh, j'ai envie de boire. Merde. Mais avec modération.
Avec modération.
Avec modération, ouais.
Et n'abusez pas de l'eau minérale. Hein.
Exact. Et mangez, c'est tricher, oubliez pas. Alors, After Party, c'est un de ces jeux héritiers des point and click. On se déplace sur des zones en dirigeant Milo ou Lola, sachant qu'ils sont presque tout le temps ensemble. Niveau gameplay, c'est un jeu qui a finalement une seule subtilité. En fait, en dehors des rares mini-jeux orientés sur l'alcool, donc danser... Bah, en étant un peu bourré, hein, naturellement, oui, voilà. En étant sous l'usage de...
Drunken Dance.
Aligner des shooters pour faire une tour ou le célèbre beer pong, hein, parce que c'est une culture américaine. Hein.
Bien sûr.
La majorité du jeu se construit autour de dialogues qui tournent en gros sur deux choix différents. Vous avez toujours deux dialogues différents. Mm-hmm. Et il y en a un troisième caché qui ne peut que se déverrouiller que si on picole.
Ah.
Parce que le jeu propose plein de bars et donc plein de cocktails qui sont tous fictifs parce que... tous dégueulasses. Alors, je vais vous donner deux exemples. Il y a le Literally Acid, qui est littéralement
acide.
Ou le Bloody Stool, qui est du whisky de sec, de l'absinthe, de l'huile de moteur et des pétales de rose. La description rajoute que ça fera plus de mal à la sortie, ce qui paraît logique parce que le nom signifie littéralement sel sanglante. Dit, hein, voilà. Chacun son trip. Il y a, je sais pas combien de cocktails, je crois qu'il y a une trentaine de cocktails différents dans le jeu.
Alors on va faire le côté cliché, en Bretagne. ça c'est l'apéritif. C'est pour nos amis bretons. Non, non.
Non mais je comprends, l'huile de moteur c'est vachement bien. Ça évite de souffrir au niveau de l'estomac. Ça flotte. Et en fait, l'intérêt c'est que chacun de ces cocktails va vous donner un trait de caractère le temps de l'ivresse. Ça va ajouter le troisième de l'heure. Autrement dit, en fait, par exemple, dans les bars, quand vous discutez avec un personnage, il y a plusieurs choix de cocktails, et qui dit plusieurs choix de cocktails dit finalement plusieurs troisièmes dialogues différents. Et ça, vous le découvrez en fonction du cocktail que vous prenez. Alors, par exemple, le Bloody Stool que je vous disais, ça vous transformait en dragueur très lourd. Donc forcément, le troisième dialogue va être un dialogue de dragueur très lourd. Et il y a mon petit préféré, le Great Fall, qui vous fait parler comme un génie du mal. Alors moi j'adore cette idée, je trouve ça absolument génial. Alors en vrai ça change pas grand chose dans le dialogue, dans la suite du dialogue du début à la fin, mais ça rend le tout vraiment très savoureux. Et là on arrive finalement au plus grand point fort du jeu, c'est qu'il est sincèrement drôle et bien écrit. Tous les personnages du jeu sont foncièrement soit comiques, soit attachants, soit détestables au point d'en devenir drôles et touchants. Par exemple Wormhorn, donc c'est votre démon personnel, parce que vous comprenez... parce que vous n'avez pas une sentence, que l'enfer ne va pas se charger de vous à minima, quoi. Et donc, en fait, vous allez voir Hand qui vous est assigné, qui est un démon qui est là pour vous faire chier jusqu'à ce qu'on vous dise c'est quoi votre peine. Et en gros, dans les différents passages du jeu, Wormhorn fait apparaître les deux personnages, Lola et Milo, et s'amuse à leur faire revivre des moments qui les ont traumatisés dans leur vie, hein, chacun de leur côté. Voilà, parce que, après tout, hein, c'est l'enfer, hein, on n'est pas au paradis. Hein. Et donc le personnage est absolument détestable, mais en fait la violence et la méchanceté qu'il va mettre en place finissent par le rendre très très drôle et parfois même touchant. En fait c'est assez surprenant, mais ça le rend parfois touchant. Ou même Lucifer, alias Satan, alias Samael, alias Morningstar. Oui c'est exactement ce que
je voulais dire. Ça veut dire créateur de lumière, il me semble, Lucifer.
Je ne sais plus. Écoute, ma théologie est très vieille. Hein,
non, mais c'est du latin.
Ah, bah, c'est ça.
Non, je ne sais pas. Mais je crois que Lucifer, ça a un rapport avec la lumière. En fait, c'est quelque chose de joli, en fait. Et l'ange déchu.
C'est l'ange déchu, voilà.
Voilà.
Et en fait, notre ami Lucifer, en fait, c'est en fait, un mec qui cherche juste à faire la fête au point de négliger ses responsabilités de patron des enfers, avec les responsabilités qui vont pour un patron. Donc voilà, et enfin, après, vous avez le duo Milo, qui cherche la lumière alors qu'il est socialement en difficulté, on va dire. Parce qu'il est... il a des difficultés de confiance en lui, et ça se sent. Et puis Lola, qui est au contraire foncièrement associable, en fait, vraiment associable. Donc le duo marche vachement bien, et le jeu joue beaucoup sur les tensions de l'amitié. Parce que on est en enfer, et qu'on appuie parfois en enfer, notamment avec certains personnages, sur les choses qui font mal. Et... qui on est réellement, nos peurs, nos défauts, tous ces trucs qu'on a cachés parce qu'on a honte, et que Wormhorn va se faire un plaisir de montrer et d'étaler. Parce qu'en gros, tous les démons sont au courant hein, de qui vous êtes. Hein. Vous attirez l'attention, en fait, en enfer, bizarrement. Donc le péril va pas être si simple, parce que, en fait, finalement, c'est un jeu sur l'amitié. Au-delà d'être drôle, c'est un jeu sur l'amitié. Hein. Et l'amitié qui va devoir survivre le temps d'une nuit. Alors, une nuit qui va être plus ou moins longue. En vérité, elle va être assez courte parce que le jeu n'est pas très très long, malheureusement, mais le point and click sont rarement des jeux très très longs, de toute façon. Et tout ça pour dire, vous connaissez la phrase de Sartre, hein, l'enfer c'est les autres. Et bah ici, les démons savent tous de toutes vous, vos failles, vos regrets, vos secrets. Et parfois, le jeu fait jaillir des réflexions très dures et touchantes sur ce qu'est l'enfance, les moments de honte qu'on enregistre à vie. Vous savez, vous faites une connerie dans votre vie, vous êtes parfois le seul à l'avoir vu, mais votre cerveau, il va graver ça au compas, oui, parce que jamais vous l'oublierez, 30 ans plus tard.
Tu te rappelleras de ce que t'avais fait ce, le tel jour en 1900.
Ah ouais, putain, je m'en souviens, j'ai dit maman à la prof, je suis le seul à m'en souvenir, hein, tout le monde a oublié, la prof elle est morte, mais moi je m'en souviendrai toute ma vie. C'est Et ça. Toute ma vie, je me le rappellerai avant de me coucher en me disant, ah oh, t'es trop con quand même.
C'est vraiment, c'est hein. T'en avais pas raté une ce jour-là.
Ah la honte quoi. Et voilà, donc il va parler sur ces trucs-là, l'enfance, les moments de honte qu'on enregistre à vie, les problèmes familiaux, les problèmes sur la vie de couple, la sexualité, l'égoïsme, les moments où on a négligé l'amitié qu'on nous porte. Bref, le propos est finalement très très adulte en réalité. Alors par contre, il y a quand même quelque chose qui va contrebalancer le point fort, c'est que le jeu est en anglais intégral. Pas de traduction française, tout au mieux, vous pouvez activer les sous-titres. Et je vous invite à l'activer parce que même en ayant un niveau C1, et j'ai un niveau C1, c'est beaucoup d'anglais d'argot raconté de façon très orale. En fait, dans le texte, dans les dialogues, il y a beaucoup d'hésitation, de répétition de langage. Quand on parle, notamment les E que je peux vous dire, si vous les si vous lisez, normalement vous les sentez pas. Là en fait on sent que les acteurs ils sont mis vraiment à fond dedans et qu'on a l'impression d'avoir un vrai dialogue de vraies personnes, et du coup ça marche vraiment bien. Enfin vraiment le doublage il est incroyable quoi. Donc le problème c'est que les gens parlent vite, c'est de l'argot et faut quand même vraiment se concentrer pour être sûr de rien perdre. Donc faut s'accrocher. Mais par contre, vraiment, ça en vaut la chandelle.
Puis on est en enfer en plus. Donc,
en plus,
l'accent
c'est
en enfer.
Alors, il faut savoir, je trouve que Satan parle comme un afro-américain. Et en fait, ça marche super bien. Vraiment, c'est excellent. Donc voilà. Donc bref, graphiquement, rien à redire. L'image de l'enfer, c'est très néon. Couleur chaude du rouge et froide avec les teintes bleues et violettes. Moi, j'aime bien l'idée, en fait. En général, les couleurs néons, ça me plaît bien.
Très, très rétro-wave, quoi.
Ouais, très rétro-wave, exactement, ouais. Je vous le disais, les doublages, ils sont exceptionnels. Les acteurs, ils sont au-delà de l'inspiration. Il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées, qui sont vraiment percutantes. Et ça pousse aussi à se remettre en question en tant qu'être humain, avec ses failles et ses rustines. Hein. Bref, After Party, c'est un jeu touchant. Pas très long, malheureusement. 6-7 heures en première run. Sachant qu'il y a plusieurs façons de faire le jeu. Puisqu'en fait, en gros, le jeu est construit en quête. Et que, en gros, pour aller faire le duel d'alcool avec Satan, il faut quand même remplir quelques quêtes, sauf que vous avez le choix entre un ou l'autre, une personne ou l'autre. Et du coup, voilà, ça peut rajouter en fait, un peu de temps, ça peut justifier une deuxième run éventuellement. Il n'est pas très cher, il coûte 17 balles, j'ai vérifié, ça demande malheureusement un bon anglais. Et il n'y a pas de patch français à l'heure actuelle, même si le studio disait en préparer un en 2019. Donc,
il s'appelle
voilà.
Comment déjà, tu dis ?
After Party, ça s'appelle.
After Party.
Et je tiens à dire que un des moments qui m'a le plus fait marrer de ce jeu, c'est qu'à un moment, on tombe sur des frères bénédictins du XIIIe siècle qui sont sur des, vous savez, les chevalets en bois là où on a les deux mains et la tête accrochée dedans et on peut pas bouger.
Hein, oui.
D'accord.
Oui,
un peu comme dans Notre-Dame de Disney.
Oui.
Vous avez le petit vieux là qui est coincé là-dedans.
Oui.
Et en fait, il faut savoir que Lola est afro-américaine ou en tout cas métisse. Et en fait, quand ils s'adressent à elle, eux, ils ont un langage et une façon de s'exprimer à l'autre du XIIIe siècle. Donc, merci, jeune femme éthiopienne.
Quoi ?
D'où tu me parles, ça ? Et donc, en fait, on a ce genre de double jeu des époques qui est vraiment brillant. Vraiment, on s'éclate, c'est super drôle. Et puis, vraiment, on balance de ces saloperies dans le jeu. Oh là là ! Donc ouais, c'est vraiment super cool, c'est juste que par contre c'est un jeu qu'on peut pas faire comme ça à la cool.
C'est pas, c'est un peu dans l'univers, enfin vraiment toute proportion gardée évidemment, mais c'est un peu le côté un peu malsain de, comment il s'appelait ce jeu-là, avec le gamin qui doit échapper à sa mère qui veut tuer un bébé.
Ah, Isaac.
Binding of Isaac.
Binding of Isaac,
ouais.
Un peu dans le même style, quoi. Un peu,
alors, c'est beaucoup plus... Alors, comment dire, l'enfer est plus propre. L'enfer ressemble surtout à une grosse beuverie.
Ah oui, d'accord.
là, dans le cas présent, bah oui, parce que clairement, l'image de l'ouverture du jeu, en fait, le menu principal, c'est une bouteille de bière allongée sur un sol en pavé, avec des néons un peu partout, et des démons qui passent.
Voilà, je vous le dis. C'est très coloré, effectivement, ouais, je suis en train de regarder.
Donc voilà. Et ici, une petite dernière chose qui est très marrante, le jeu a son propre réseau social, Beaker, ça s'appelle. Et en fait, dedans, il y a des... En gros, c'est Twitter. Et dedans, vous avez de vrais... perles de conneries, de réflexions d'humains ou de démons qui parlent de l'enfer et tout, ou qui se rappellent les dernières choses qu'ils ont dit, genre, hey, mais ce serait pas l'acteur de Retour vers le futur? Et en fait, au final, je suis mort et je sais toujours pas si c'était lui. Donc ouais, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment très drôle. Ça demande juste un bon niveau d'anglais. Mais si vous pouvez outrepasser ça, je vous jure que c'est très drôle. Et c'est finalement très touchant. Vraiment très touchant. Et parfois, ça permet de se poser des bonnes questions. Voilà.
Ouais, donc il y a un petit
vibe Catherine, en fait, je trouve, dans le délire lié à l'alcool. C'est pour ça que j'aime bien, quelque part.
Et sur toutes les plateformes en plus.
Ah oui, oui, il est sorti partout.
Steam, Switch, PS4.
Tout, ah oui, je crois qu'il était gratuit sur Epic Games Store il y a pas longtemps en plus.
Ouais.
Ah
bah. Ça se trouve, je l'ai.
Et ça se trouve, tu l'as, exactement.
C'est génial.
Donc voilà, je vous invite à le faire. Et si vous ne l'avez pas, écoutez, il coûte 17 balles sur Steam. Et je suis sûr que pour les soldes de Noël, il coûtera que dalle.
Il coûtera que dalle, ouais. Bah merci Tony. On va faire une petite pause musicale. On va écouter Miami Nights 1984 et Accelerated. On est de retour sur Radio Campus Tours dans l'émission Prestart. Et on va passer aux aventuriers de la Playhistoire. Suivez-moi.
Les aventuriers de la Playhistoire.
Ah.
Donc je vous avais promis que j'allais parler d'une franchise dont on parle beaucoup en ce moment, puisqu'il est à l'affiche au cinéma. D'abord, écoutez ceci.
Dis quelque chose.
Non, je vois pas, moi.
Ah. Non, c'est pas OSS 117, je vois quelqu'un qui m'entend un panneau.
Ah, mais c'est Johnny English.
Et Austin, oui, Power.
Austin Powers. Vous l'avez reconnu, c'est le fameux thème de James Bond. Donc. Et si je vous en parle, c'est qu'à moins que vous viviez dans une grotte perdue au fin fond de la Lozère, vous n'aurez pas échappé que le dernier James Bond est enfin sorti sur le grand écran. Et ça m'a donné une idée. James Bond et le jeu vidéo. Car oui, l'agent le plus célèbre de sa très gracieuse majesté a connu pléthore de jeux, 23 pour être précis. Mais aussi le fameux jeu James Bond Junior, tiré du dessin animé qui a tellement bien marché en France que personne s'en souvient, et qui suit les aventures du neveu de 007, et aussi la série parodique des James Bond, je ne sais pas si vous vous rappelez
si,
ça, messieurs.
Avec un poisson, là, non?
C'était une grenouille ou un poisson qui était espion. C'était assez drôle.
Non, c'était... Ouais, je crois que c'est une grenouille. Ah, putain, mais j'ai un doute. C'est grenouille, poisson? Non, je crois que c'est une grenouille.
Je crois que c'était une grenouille.
Ouais, je crois que c'est une grenouille. James Bond, ouais.
Et c'était... vous étiez une grenouille espion. Et comble du chic, il y a eu un DLC dans Forza Horizon 4, parce que même James Bond, il a pu être un DLC.
Bah oui, ça passe en Angleterre en plus, donc c'est logique qu'il part.
L'espion apparaît également dans le jeu Broforce, sous le nom de Double Bro 7, et il porte un smoking et un pistolet, et il a les traits de Sean Connery.
Oui, mais par contre, je me rappelle qu'il n'est pas top, c'est-à-dire vraiment...
Alors, genre, il est haché, hein.
Si, alors c'est marrant parce que quand tu flingues un ennemi avec, parce qu'il tire au PPK silencieux, quand tu flingues un ennemi, tu vois l'ennemi fait oh, piton.
Je crois que je l'ai pas débloqué celui-là encore.
C'est l'un des derniers, Cadillon.
Ah, d'accord.
À l'instar des fameuses James Bond Girls, l'agent britannique s'est tapé tous les supports du jeu vidéo aussi. Comme quoi, hein.
Il oui, n'y a pas que ça qui s'est tapé. Il n'y a pas que ça qui s'est tapé.
Donc, PC, PlayStation, Xbox, Game Boy, DS, Wii, téléphone portable. Il s'est aussi tapé les vieilles générations, comme la Commodore 64, l'Amstrad, l'Atari 2600, la ZX Spectrum ou encore la ColecoVision. Pour les plus jeunes, demandez à vos parents. C'est plus simple.
Enfin, la Coleco, ça commence à faire loin.
La Coleco, ça commence à taper haut, ouais. Mon cochon, je sais que quand on aime pas, quand on aime, on compte pas, mais là, ça on frôle quand même le limite d'avoir des problèmes. Et il aura connu toute forme de jeu, les jeux de plateforme, les jeux de tir, aussi les jeux de course. 007 Racing,
oui.
Vous faites la course avec 5 voitures des différents films.
Alors, c'est même pas un jeu de course en vrai. Hein.
Parce que, en fait, oui, parce que je vais te le dire, il y a avec l'objectif de sauver le monde. Faire un scénario dans un jeu de course, pourquoi pas faire un film sur Need for Speed? Ah merde, ça a déjà été fait.
Ouais, ça a déjà été
merde.
Avec le résultat,
j'avais été le voir au cinéma.
Avec Aaron Paul, exactement. Avec Aaron Paul. Qui visiblement doit payer ses impôts et l'électricité.
Je crois que c'était le truc, il avait besoin de fric pour ses impôts.
Ouais, ouais, je pense, ouais.
Alors, il y en a certains qui sont rentrés dans la légende du jeu vidéo. Hein. Qui n'a pas frôlé une bagarre générale en jouant avec ses potes à GoldenEye 64.
GoldenEye 64.
D'autres n'étaient pas si mal, malgré de gros défauts. Demain ne meurt jamais, le monde ne suffit pas.
Ouais,
tu
vois.
C'était pas si mal.
Je suis d'accord. Moi, Demain ne meurt jamais, pour l'avoir eu sur PS1, à l'époque, j'avais eu Noël un pack de 3 jeux avec FIFA 99, Sledstorm et Demain ne meurt jamais. Ne me demande pas, il n'y a aucune cohérence entre les 3 jeux,
non,
clairement. Et c'était pas mal, ouais.
C'était pas mal.
Alors, c'était...
Bon, les ennemis, ils étaient cons comme une pelle, mais.
Clairement, ouais.
Mais à cette époque. Même encore maintenant, il y a beaucoup de jeux où ils sont cons comme des pelles, quoi. Ils restent devant la...
Ouais, mais là, ils étaient vraiment très très cons.
Ils étaient très 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 cons. Et malheureusement, la plupart, c'était pas des chefs-d'œuvre. Pourtant, pour un studio, c'est un but grand ouvert. Un espion qui sauve le monde, combattant tour à tour des Russes, des milliardaires, des mafieux, ou ce que tu veux.
Un mélange. Il peut être russe, milliardaire et mafieux.
Voilà, il peut carrément être ça. Qui paraît souvent, qui conduit des bagnoles incroyables avec des gadgets tellement high-tech que le dernier iPhone semble fabriqué par l'homme de Néandertal et qui se tape les plus jolies femmes du monde tout en picolant comme un trou. N'importe quel studio peut faire quelque chose de sensé. Pas forcément. Alors attention, James Bond a eu le droit au meilleur studio possible. Hein. Alors on va pas se moquer de Parker Brothers, Domark, Mindscape, Interplay, Rare, Saphir. Déjà parce que c'est la préhistoire et Rare a fait GoldenEye 64, donc on ne peut pas critiquer. Mais ensuite viennent ceux que j'appelle le gang du crime du jeu vidéo.
Ah vas-y, on te latte, dis-nous tout.
Oui, parce que j'aime beaucoup cette musique aussi de Michel Legrand. J'ai appris tout à l'heure que c'était Michel Legrand.
Oui, bah moi je savais pas, je pensais que c'était juste le thème de Faites entrer l'accusé.
C'était dans un film qui s'appelle Le Messager.
D'accord.
Voilà. Oui, le gang. Ces studios qui sont prêts à pousser le joueur à vendre sa daronne pour avoir en retour un jeu mal branlé et beaucoup de regrets. Dois-je vous les présenter ? Y a là la bande habituelle. THQ, qui n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Regardez leur line-up, c'est une horreur. Electronic Arts, et oui, toujours dans les bons coups.
Ah, bah tu sais quoi, je te laisse finir, mais on va en reparler.
Et évidemment, les poubelliers du jeu vidéo, Activision.
Ouais, ouais, non, là, j'en reparlerai pas.
Non, on n'en parlera pas, ouais.
Ensemble, ils ont réussi l'exploit de tuer James Bond, avant de laisser à IO Interactive et à Hiatus le soin de se débarrasser du cadavre.
Ah ouais, mais tu vois, je suis super pressé de voir IO Interactive s'en occuper parce que c'est les papas de Hitman et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose.
Il y a moyen de faire
quelque
chose.
Ah ouais, je suis super pressé.
Ils sont sur un jeu James Bond, là.
Ouais, ouais. Ah,
oui, ah, franchement, ils ont annoncé, d'ailleurs.
Genre, quand ils ont annoncé... Enfin, moi,
fin 2020, je crois.
Les parents de Hitman qui... Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Les parents de Hitman qui s'occupent de ça, je fais putain, ça
peut être super. Ouais, ça peut le faire, carrément.
En espérant que l'univers sera... quand même un peu moins cartoon que Hitman, parce que Hitman, c'est à hurler de rire. Quoi.
Ouais, c'est franchement slapstick.
Il y a un côté dadar que j'aime beaucoup dans ce jeu.
Ouais,
ce
il y a
jeu,
un petit côté second degré de chaque instant.
J'aime
quand même,
beaucoup
oui.
ça. Et là, on touche à un problème récurrent. Pourquoi les films ont des adaptations jeux vidéo pourries ? D'abord, se payer une franchise coûte une blinde. Et tout l'argent qu'on a mis dans la franchise, ben, on l'a pas dans le développement. Ainsi, d'autres grands films ont connu des adaptations discutables. Star Wars, qui étant celui qui décroche également le pompon, et qui bizarrement est passé entre les mains expertes d'Electronic Arts.
Ouais, mais et tu... Oh, putain, je suis désolé, c'est terrible, là, écoutez bien, je vais défendre IA, mais tu vois, par exemple, le dernier... Moi, je m'en fous, Star Wars, je trouve que c'est de la SF pour les enfants, quoi. Je veux dire, tu veux...
Là, t'as tous les fans de Star Wars qui t'attendent aussi.
C'est pas grave, je casserai la gueule à tout le monde. J'ai joué
ils
à Street of Rage.
Ouais.
Non mais si tu veux faire du bon space opéra, tu vas avoir un truc qui s'appelle Mass Effect et t'oublies Star Wars, c'est de la merde.
Bref. Non mais franchement sérieux les mecs, il va falloir qu'on se penche sur Electronic Arts et ce qu'ils sont capables de faire avec
oui,
un jeu vidéo.
Tu vois ce que je veux dire par là, c'est que le dernier c'est Fallen Jedi. Bah Fallen Jedi, vraiment j'ai plein de potes qui ont surkiffé, qui ont
trouvé
ça vraiment
bien. Sauf que t'as aussi eu la période de Podracer.
Non, je le défendrai. Star Wars Racer, je le défendrai. Non,
je c'était celui tiré du film où justement il y a le truc de Pod où dans le jeu, tu assistes à la course en regardant le personnage.
C'est frauduleux comme approche, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, le jeu en pod était vachement bien, je suis désolé.
Bon, par contre, on parlera pas des visiteurs, hein, parce que le film était moyen et le jeu était au même niveau.
Non, on ne parlera pas de ça, non.
Donc pour conclure, si vous êtes fan de James Bond, bah, chopez-vous une N64 ou GoldenEye. C'est bien, ça va pas vous coûter une blinde.
Oh, prenez la génération PS2, elle est bien aussi, arrêtez.
Et aussi, vous pourrez assouvir votre envie de sauver le monde et d'avoir la jolie demoiselle pixelisée à mort sur un fond de musique raté d'Eric Serra, d'ailleurs.
Oui, alors oui.
Parce que
oui, c'est
les
vrai,
sons
c'est...
de la N64 sont c'est... quand même assez
mais
moyens.
Mais c'est vrai, t'as raison, c'est Eric Serra.
C'est
alors,
Eric Serra dans GoldenEye.
Dans mes souvenirs, dans le film, Eric Serra a fait des musiques qui n'ont pas été prises et qui ont été utilisées pour la version 64.
Tu
parce qu'ils les ont données. Fait non, c'est trop nul.
Ah mais,
non,
mais oui, parce que c'était nul à chier la compo.
Et tu peux retrouver ces sons sur la bande originale du film. Tu as les sons du jeu en fait.
Oui.
Mais ils étaient utilisés.
Ils ont quasiment pas utilisé les musiques de Serra parce que c'était nul. Vraiment, ouais. C'était nul.
Alors que voilà, le mec il a quand même fait les musiques du Grand Bleu, mais le Grand Bleu et GoldenEye, il y a une grosse marche à franchir apparemment.
Après, c'est comme tout, il a bossé avec Besson et je veux te dire, moi c'est une forme d'association de malfaiteurs dans ma tête. Tu vois, avec du temps, tu fais bon.
Ou alors, vous pouvez, si vous êtes vraiment fan du genre, vous choper des jeux comme Metal Gear Solid, comme Splinter Cell, comme. Siphon Filter pour
la PS1.
C'est
pas tout jeune, Siphon Filter.
C'est vraiment PS1. Mais vous pouvez vous choper ces jeux-là. C'était un peu du James Bond. Voilà, avec le côté glamour en moins, mais...
Alors, je pense que celui qui s'en rapproche le plus, c'est peut-être bien Siphon Filter, quelque part.
Il me semble aussi, ouais.
Parce que Siphon Filter, il y a vraiment ce côté, genre, c'est partout dans le monde, vraiment, c'est le côté un peu, je voyage partout dans le monde, avec, il y a aussi des scènes avec des réceptions.
C'est un peu le crossover... l'ultime entre Mission Impossible et James Bond.
Il y a un petit mix entre les deux.
Il y a un mix entre les deux, ouais.
Ouais, je suis assez d'accord.
Et on était totalement à l'époque, en plus des films...
Bah, c'est les années 90, hein. Safe and Filter, c'est 90.
96, 80... le premier Mission Impossible, c'était 96.
Et Safe and Filter, c'était 98 ou 99.
98 ou 99, ouais. Donc on était sensiblement à cette époque-là.
D'ailleurs, il y a aussi Uncharted qui est entre Indiana Jones et James Bond, qui mélange un peu tout ça.
Oui, là, après, James Bond, ça a infusé. Mais par contre, tu vois, je vais revenir, je suis désolé, hein, c'est terrible. Franchement, je vous jure, ça... j'irai vomir après, mais je vais défendre hier. Je suis désolé, mais je vais défendre EA. Parce que EA, ils ont pris, donc effectivement, ils ont eu la licence à partir de, à partir en gros de la génération PS1. Voilà. Et c'est eux qui ont fait Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas.
C'est pour ça que je crache dessus, alors que je venais juste avant, 30 secondes plus tôt, dire que c'était des jeux qui étaient pas trop trop mal. Parce
ouais,
que mais ils suivaient bien l'univers du film, en fait.
Bah alors, tu vois, c'est que, par exemple, on va prendre, donc, Demain ne meurt jamais, c'est un jeu... correct, et je pense qu'il y a des gamins qui, enfin des gamins de ma génération qui ont kiffé. Et aujourd'hui, en fait, clairement, il a plein de défauts, mais ça va. Le monde
mais
ne suffit pas.
Tu y rejouerais, je crois que t'auras le côté un peu Madeleine de Proust.
Ouais,
de dire, ouais, mais il y avait du plaisir.
Ouais, ouais, non, mais clairement, clairement, le monde ne suffit pas. C'était un FPS honnête.
Honnête.
Voilà, honnête, rien à dire. Après, la génération PS2, il y a des choses à dire, vraiment.
C'est sûr que si tu le compares avec les jeux de cette époque-là qui étaient sortis, bah, c'est vrai qu'il fait un petit peu, il est un peu à la traîne, mais. Comparé à du, des Tomb Raider, des trucs comme ça, mais je trouve que bah, il a son charme, quoi.
Non,
a son petit charme.
Ça va. Franchement, moi je suis désolé, mais.
Après,
gros...
c'est vraiment quand ils ont commencé à taper dans EA Racing, 007 Racing. Et
ouais,
tout
mais
ça,
tu vois, 007 là, Racing, ont... pour moi, c'est un sorte de derrière de parcours où tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Parce que après, donc EA prend la suite et il sort Espion pour Cible sur PS2 et GameCube.
Ils font le GoldenEye où tu incarnes un méchant.
Attends, ça on va en reparler après parce que c'est un peu plus technique ça celui-là. Mais il sort donc Espion pour Cible qui est pour moi un très bon James Bond en FPS. Vraiment qui marche vraiment bien. Avec les gadgets, avec les doubleurs. Alors à l'époque, ils n'avaient pas le, ils avaient pas le droit de viser Pierce Brosnan qui était encore l'acteur. Donc en fait, le James a une gueule un peu étrange. Mais il y a des super scènes avec la bagnole. Enfin vraiment, c'est le. Vraiment, Espion pour Cible c'est cool.
Correct, ils étaient pas. Mais d'un truc de EA. On attend un petit peu de EA, en fait, c'est quelque chose de d'un autre niveau. Quoi.
Bah,
ça monte d'un
niveau.
Tu
vois,
niveau,
je suis, bah, je trouve pas parce que moi je trouve qu'il est honnête et enfin il est vraiment très honnête même en fait. Je trouve même qu'il est bon en fait tout simplement. Ensuite, t'as Nightfire qui est un bon FPS.
Ouais, moi j'ai joué sur GameCube.
Ouais, et en le multi était cool. Le multi Nightfire était cool vraiment. Nightfire c'est un bon jeu avec Pierce Brosnan cette fois. Et puis ensuite, on a eu comment c'est Everything or Nothing. C'était moi, j'ai le titre en anglais, mais je sais pas s'il avait été traduit en rien. C'était Kit ou Double. Kit ou Double.
Kit ou Double.
Kit ou Double, qui était trop bien en TPS. Il était vraiment super cool, vraiment. Moi, je le défendrais, mais contre vents et marées, ce jeu, parce que il était donc c'est un TPS avec une coop. Il y avait un mode coop. Le mode coop, c'était une aventure à part qui était super cool à jouer. Le jeu était pas très très dur. L'aventure était super cool. T'avais Willem Dafoe, t'avais Richard Kiel qui reprenait son rôle de requin de Jaws, qui était présent. C'était avant qu'il meure. Il y avait Heidi Klum qui jouait dans. Enfin, vraiment, c'était le casting des enfers. Hein. Vraiment, il était trop bien. Et c'était un super jeu qui tout double. Ouais. C'est après que ça a commencé
Golden
à partir.
Golden au service du mal.
Alors, Golden au service du mal, je le laisse sur GameCube. Bon, si tu l'as payé à l'époque comme moi à 15 balles, ça va. Mais
je valais pas plus.
Voilà,
bon baiser de Russie en 2005.
Bon baiser de Russie, c'est le moment où ça commence à faire. Bon, tu vois,
c'est là ils ont commencé à vraiment reprendre dans les films.
Voilà, alors, là, ça... c'est marrant de jouer Sean Connery, de retrouver un peu l'ambiance 60s. Je comprends. Je comprends parce que
oui,
Bon baiser de Russie, c'est.
Bon baiser de Russie, c'est le deuxième James Bond.
C'est le deuxième James Bond qui est.
64 ou 65.
Ouais, on est sur la deuxième moitié des années 60. Et en fait, c'est un James Bond qui est beaucoup plus violent, mais il y a aussi beaucoup plus de gadgets parce que le premier James Bond, il y a très peu de gadgets. Là, il y a le jetpack. Il y a, enfin voilà, puis c'est une aventure qui se passe aussi avec la Russie. Enfin, on est en pleine guerre froide. Hein. Voilà. Et en gros, Bon baiser de Russie, c'est le dernier où tu fais. Bon, la formule commence à s'étioler. Et après, c'est Activision qui va récupérer le bébé. Et là, il va se passer deux choses. Soit on va avoir le remake de GoldenEye, que tout le monde a adoré, et moi, j'ai beaucoup de mal sur
Wii. Et DS,
Moi, je trouve qu'il est très bizarre à jouer. Vraiment, j'ai un gros problème
avec. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, je ne l'ai pas encore essayé. Tiens, GoldenEye sur Wii.
Et je trouve qu'il est très bizarre. J'aime pas du tout la maniabilité.
Ok.
Si je trouve ça intéressant.
Il y a eu Bloodstone après.
Alors, Bloodstone, c'est.
PS3, DS, 360 et PC.
Alors, je crois qu'il y a eu. Non, il y a d'abord eu Quantum of Solace.
Il y avait Quantum of Solace en 2008.
Ouais. Alors, ça, par contre, ça, c'est une pure escroquerie. Sachant que, ceci dit, c'est une pure escroquerie, mais à deux niveaux. C'est-à-dire, la version PS3 360 est une escroquerie pure et dure. C'est en gros, c'est le moteur de Modern Warfare. le premier Modern Warfare. Et il est nul, vraiment il est nul. Parce qu'en fait, le film n'était pas encore sorti et donc le jeu se passait
entre Casino Royale. C'était entre Casino Royale et Quantum of Solace. Voilà. C'est un peu la période manquante entre les deux. Puis dans le film, en fait,
parce que
c'est tout de suite le.
Tu peux pas comprendre le film, tu peux pas comprendre Quantum of Solace avec le jeu, hein, c'est impossible. Et en plus, j'ai précisé que c'est un jeu où il y a 14 niveaux et t'as un niveau, c'est basiquement James qui est empoisonné dans Casino Royale.
Oui.
Et en gros, tu sors des chiottes pour aller jusqu'à ta bagnole, fin du niveau. Je déconne pas, hein, vraiment, niveau, c'est ça. Et en fait, c'est juste que James, eh ben, il est comme s'il était bourré, quoi, donc.
Il marche pas droit.
Ouais, il est en train de jouer à After Party en vrai, quoi.
C'est ça.
Donc voilà. Et par contre, la version PS2. Est totalement différente de la version 360 et PS3, et j'ai cru entendre que c'est un très très bon jeu, parce que c'est à l'époque où en fait on était encore en cross-gen et c'était pas les mêmes studios qui faisaient le jeu, donc voilà. Et après, effectivement, on a eu Bloodstone qui est un jeu
oubliable. GoldenEye 007 Reloaded.
Alors c'est la version PS3 360 de la version Wii.
C'est-à-dire que oui, ils ont eu le droit à deux GoldenEye.
Oui, enfin Nintendo, en gros, c'est juste que ce qui s'est passé, c'est que comme Nintendo, enfin c'est Activision qui a récupéré la licence, donc ça appartient plus à Microsoft et Rare, donc résultat, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et résultat, ils l'ont sorti d'abord sur Wii, puis après ils l'ont sorti sur PS3 à l'époque parce qu'on pouvait y jouer, dans mes souvenirs, avec les PlayStation Move là.
Ouais.
Mais tu pouvais aussi jouer à la normale. Alors jouer un FPS sur console, pour moi, c'est une expérience intellectuelle qui me demande beaucoup de souplesse. mais résultat, passer celui-là, clairement, c'est plus la folie, quoi. Enfin, pour moi, Activision, quand ils prennent le relais,
007 Légende en 2012.
Oh là là, Légende. Oh putain, quelle escroquerie, Légende. Je rappelle.
Et en 2018, donc 2012, dernier jeu James Bond, et en 2018, c'est là où tu as le DLC le meilleur de Bond sur Forza Horizon 4.
Ah ouais,
il y a eu un gros trou,
oh
là là, un énorme trou, ça fait 10 ans presque.
J'avais complètement oublié 007 Legend. Alors là, je vous le dis, c'est une escroquerie incroyable. et le pire, c'est qu'en plus, ça vendait du rêve, parce que je me rappelle, dedans, tu avais un niveau avec Moonraker.
Oui.
Tu pouvais faire le qui est un James Bond que j'aime profondément, alors qu'il est nul à chier.
il est drôle.
Il est très drôle, ouais.
Tu sens que c'est un James Bond... Ils essayent d'être sérieux, mais tu sens qu'à...
Oh là là.
Après le premier quart du film, ils ont dit « Allez, rien à foutre, on y va. »
Franchement, Albert Broccoli, ils sont ici. Vous avez vu Star Wars ? C'est pas mal, hein ? Pour te faire pareil avec James.
Il y a un truc à exploiter, là, les gars.
Et le pire, c'est qu'en fait, il se trouve que le jeu, quand il est sorti, en plus, il était même pas fini. Hein, ce qui fait que t'avais un pont du jeu qui était en DLC. Alors, en fait, il était offert avec. C'est-à-dire, quand il était prêt, il était téléchargé. Mais genre, les mecs, ils ont dit « Non, il faut pas qu'on loupe le coche. On va sortir le jeu. C'est pas grave, c'est le dernier niveau, il est pas prêt. » Genre, nul à chier. Mais vraiment nul à chier. Je crois que c'est vraiment le pire du pire.
Donc voilà, et pour l'info, James Bond, la version parodique qui était sortie dans les années 90, c'était un poisson.
Ah, c'est un poisson.
C'était bien un poisson. Voilà.
Il y a des mecs qui ont fait un GoldenEye Source.
Ils ont fait un GoldenEye Source.
Ils se sont fait pourrir.
Ils se sont fait pourrir. Ah bah ouais, parce que clairement...
Avec le moteur de Half-Life.
Ouais, mais la famille Broccoli, elle rigole zéro avec la licence.
Putain,
c'est les RG du cinéma.
Ils rigolent zéro avec les trucs parodiques ou un truc comme ça. Par contre, ils sont capables de donner à Activision, tiens, massacre mon enfant.
Mais tu vois, non mais le pire là-dedans, c'est de se dire qu'en fait, techniquement, ceux qu'on fait... Enfin, c'est pas ceux qui ont fait le meilleur boulot, mais qui ont fait du très bon boulot. IA fait du très bon boulot avec les licences. Mis à part 007 Racing qui est nul à chier, clairement, les 007 qui sont faits, ils sont
au service
bons.
Du mal.
Oui, au service du mal. J'apprécie au service du mal d'une certaine façon, même si je trouve qu'il est assez. Enfin, il est objectivement assez mauvais, mais dans les faits, je l'apprécie quand même. Mais vraiment, IA a fait du bon boulot globalement. Vraiment.
Bon, bah, on va passer à la suite avec le quiz.
Ouais.
Allez. Allez, grand Charles. Alors Charles, il m'a dit en off que si jamais il gagnait pas, il me spoilait le dernier James Bond.
C'est ça.
Donc le quiz, vous avez l'habitude, 4 questions, au choix évidemment, et si égalité au bout de ces 4 questions, il y aura la question bonus, la question Guilux, la question en plus.
Est-ce que ça lave plus blanc que le blanc ?
Là, vu la gueule de la question, je pense que... Mais moi, j'aurais pas... Là, franchement, les questions que je vous ai trouvées, là, moi, je les réponds pas. Hein. Alors, on va commencer par le Quizmaster.
Pas Charles.
Charles.
Yeah.
Charles, tu as le choix entre 1 et 4.
Eh ben, 1.
1.
Petit bras.
Ouais.
Quel âge a Altaïr ?
Oh merde.
24 ans, 17 ans ou 25 ans. Dans le premier Assassin's Creed.
Alors vas-y, répète les âges.
24 ans, 17 ans ou 25 ans. Et c'est dans le premier Assassin's Creed. Hein. C'est pas ouais, dans la version.
Bon, il a pas 17 ans, je pense. Que c'est un petit peu jeune. Il est pas majeur. Moi, j'irais pas dans l'Animus si j'étais pas majeur.
Tu veux dire un jeu qui se passe au 11e siècle pendant les croisades. les considérations majeures te parlent, toi.
Ouais.
Disons que les rois, on les couronnait à l'âge de 8 ans.
Je dirais qu'il a 24 ans.
24 ans.
Ouais.
C'est ton dernier mot.
Ouais, c'est mon dernier mot. Et merde.
Ah, c'est 25 du coup.
C'était 25.
Ah, ouais, ouais,
oh, c'est
non,
de bizarre.
Ouais, c'est bizarre. Ouais.
Tony, tu as choisi entre 2, 3 ou 4.
Eh bah 4.
Combien de Spyro ont finalement sorti?
Alors, sur toute console confondue.
Toute console confondue.
Ok, alors. Sur PS1, t'en as eu 3. Sur PS.
Si tu veux, je peux te donner les propositions.
Vas-y, je veux bien, ouais.
9, 11 ou 13.
Alors, le remake, tu l'inclus comme un jeu à part ou pas? Pas le remake complet là, qui est sorti. C'est-à-dire c'est un jeu en plus ou...
Je sais pas, moi c'est dans un quiz que j'ai trouvé ça.
Tu peux lui faire des propositions de réponse. Oui ou non?
Ah. Oui ou non.
Combien de plus ont sorti? Oui. Ah bah parfait. Alors attends, 3 sur PS1, ensuite sur PS2 t'en as eu... Oh là là, il y avait Enter the Dragonfly... T'avais les... Oh putain, il y en a 3. Il y en a facile 4 qui sont sortis. Ça fait 7. Après, t'as eu des épisodes sur... T'as eu sur Game Boy Advance le crossover là, avec Spyro et Crash. Donc ça fait 8. À coup sûr, tu vas me compter les Skylanders. Où il y avait Spyro dedans. Tu m'as dit combien? 9, 11 et...
13.
PS3, je crois qu'il y en a eu 1.
Ah, ça fait... ça fait
et 3, 4, 7, 8, 9, 10... allez, 11.
11 ?
Ouais, 11. Ah, putain, c'est 13.
C'était 13.
Ah, oh, vache, quoi.
Bah, les gars, premier tour, difficile. Ça sera pas plus simple après.
Super.
Charles, le choix entre 2 ou 3 ?
2.
Alors, dans Tales of Grace...
Merde.
Oh.
Quel objet ramasse-t-on non loin du bâtiment de recherche au, dans la ville de Sable Isol?
Oh, okay. Il est atroce ce jeu, je l'ai détesté. Je l'ai détesté.
Est-ce que c'est un cristal luxuriant? Est-ce que c'est un croc de la bête ou un manuscrit? Autant dire écoute, trois objets totalement random que tu peux trouver n'importe où. Quoi.
Sans absolument aucune hésitation, je dirais un croc de la bête.
Un croc de la bête.
C'est mon dernier mot.
C'est ton dernier mot.
Ouais. Et merde. C'est complètement au hasard. Hein.
C'était un manuscrit.
Ah, il est atroce. Tu sais qu'il est sorti en plusieurs éditions ce jeu. Et ils l'ont ressorti sur PS3, une version qui s'appelle Tales of Graces F. Mm-hmm. Écoute, moi j'adore les Tales of. Et celui-là, c'est l'un des derniers que j'ai acheté en disant ah, plus jamais je me fais avoir. Et là, tu vois, il y en a un nouveau qui est sorti. Et j'ai regretté de ne pas l'avoir acheté parce que la démo était vraiment très chouette. Mais le Graces F, il m'a tellement dégoûté. Alors que Symphonia, c'était cool. Vesperia, c'était génial.
Les Tales of, ils sont souvent très très bien.
Ouais, mais alors celui-là,
ils étaient...
Ah, Graces F, il m'a achevé. C'était un jeu Wii à l'époque. Et il est sorti sur PS3 après, une version améliorée. Je ne sais plus jamais.
Donc, Tony, il te reste la question 3.
3 ou 3, bah 3.
3 ou 3. Alors, qu'est-ce que l'arche?
Ah, putain, c'est... j'aurais dû dire
ah,
3.
Bordel, ça.
Est-ce que c'est un programme informatique? Est-ce que c'est le nom d'une guerre à venir? Ou est-ce que c'est une arme bactériologique?
Ah.
Oh, attends.
Ah, ouais.
Attends, on recommence.
J'ai bien fait de pas dire 3 non plus. Ouais.
Qu'est-ce que l'arche? Bon, déjà, il faut savoir dans quel jeu on parle d'arche.
Bah, truc, moi, tu me dis moi, l'arche,
c'est Borderlands. Ouais.
Ah, bah non, c'est pas dans Borderlands.
Ah merde. Ça, le mec, on lui apprend aussi.
Ouais, ouais, c'est clair. Mais, tu vois, au moins, on est connecté.
Ouais, ouais.
On parle de Splinter Cell.
Ah, bah, tu m'as sacré à dire. Bah, redis, en ce cas-là, parce que là, il y en a plus 50.
Voilà,
là.
C'est...
Un programme informatique, le nom d'une guerre à venir ou une arme bactériologique?
Ah merde, en fait, c'est plausible que sur les trois.
Ouais, ouais.
Et oui, c'est ça qui est salaud.
Ah putain, c'est quoi? C'est soit un programme informatique, soit une arme bactériologique.
Moi, je pense que c'est une guerre à venir.
Comme par hasard.
Dis une guerre à venir.
Écoute, je vais dire programme informatique.
Oh putain, ah, putain, j'aurais dit ça
c'était
aussi.
C'était une pire à venir.
Putain, j'aurais dit programme informatique.
Charlie te donne la réponse. Non, je vais répondre autre chose.
Non, mais je suis... écoutez, monsieur l'arbitre, l'arche, c'est dans Borderlands.
Mais ouais, c'est clair.
Bah non,
là, personne joue à Splinter Cell.
C'était mort, Splinter Cell, depuis des années. Ouais. Arrêtez.
Oui, depuis que Metal Gear l'a défoncé.
Oh non, oh là là.
Dans
oh
le trailer. Là là. Donc, question bonus, on est à 0-0.
Ah, les gros nuls, putain, ouais, c'est clair.
Alors là, la question bonus, vous connaissez le principe, je vous donne la question, je vous donne les trois propositions, et vous allez me donner chacun une réponse, et on verra. Donc, quel est le nom de l'archimonstre du monstre Arachne malade?
Putain. Je l'écoute.
Donc, si vous voulez.
C'est dans Borderlands, ça ?
Non, c'est pas dans Borderlands, c'est dans Dofus.
Oh putain !
Putain, ouais, d'accord.
Alors, proposition : Aracule, la revancharde, Arachitique, la souffreteuse, ou Arachide, l'huileuse.
Alors, attends, est-ce qu'on peut appeler un ami ? Parce que moi, j'ai un ami
non,
qui joue à Dofus.
On ne peut pas ouais. appeler un ami.
On peut regarder sur Google. Parce qu'on n'a pas le temps. Je suis ami avec Google. Et...
Donc, bah écoute, à toi l'honneur.
C'était quoi les premières propositions?
Alors, Aracule la revancharde, Arachitique la souffreteuse ou Arachide l'huileuse.
Alors, je suis incapable de reprononcer les trucs, mais je dis le première réponse, moi.
Écoute, premier.
Écoute, moi, tu sais quoi, je me rappelle que Dofus, c'est plein de jeux de mots à la con, donc je vais dire le dernier.
L'Arachide
l'huileuse, là.
Putain, on a réussi un grand chelem
oh
de la des mauvaises réponses.
Oh,
c'est Arachitique la souffreteuse en fait.
Oh là là.
Et j'ai découvert ça
à la con aussi. Hein.
En même temps, on a... je crois qu'on était à une émission de jeux vidéo. Pourquoi on parle pas de vrais jeux vidéo là?
Ouais, c'est
Spyro,
vrai,
excuse-moi.
Pardon, excuse-moi, Spyro.
Splinter Cell, excuse-moi.
Pardon, attends, Splinter.
Tales of, excuse-moi.
Non, Tales of, non.
Assassin's Creed, excuse-moi.
Non, Assassin's Creed, c'est indépendant, ouais. Arrêtez.
Dofus, bon, ok, d'accord.
Non, mais Assassin's Creed, arrêtez, c'est bon. Hein, ouais.
C'est
l'histoire pour les neuneux, arrêtez.
C'est le premier.
Bon, il est nul à chier, je l'ai fait à l'époque.
Il pouvait pas nager, le mec.
Oui, puis alors, il était juste beau, le jeu, mais sinon, il était chiant à crever. Hein.
Bah, ouais.
Oh là là,
mais on y a tous joué, hein.
Bon, oui, on y a tous joué.
Ok, t'as gagné, c'est bon.
Donc, grand chelem dans la loose. Bravo, ouais. Messieurs.
Okay, ouais, bah, c'est victoire du MJ.
Pour ça, on est obligé de jouer à James Bond Legend sur Wii U.
Oh, merde. Tu pourras pas me spoiler. T'as perdu aussi.
Zut.
Et,
j'ai tellement de trucs à te dire.
Ou sinon, tu peux jouer à Tales of Graces. Si tu
non, c'est bon, écoute, j'ai déjà fait. Même pas, j'ai même pas fini, j'en pouvais plus, hein, tu vois.
Donc on va rester là, on va se retrouver la semaine prochaine, hein, ouais. Mercredi prochain. Peut-être que je vais avoir le droit au retour du bâton avec un quiz de l'enfer.
Ah ouais, on travaille à deux si
on
tu veux.
On travaille à deux, ouais, carrément. Ouais.
Ah, on le défonce.
D'accord, donc pour moi ce sera la lutte finale.
J'espère pour toi que
le boss
final. Bédilles, hein,
le boss
parce
final.
Que tu vas voir, ça va être compliqué de marcher après ça.
Ah bah moi je suis prêt. De toute façon, j'ai jamais dit que. Au pire, on demandera à Julien d'être avec nous comme ça.
Souffre douleur, ok, je comprends.
Je vous remercie, on vous remercie tous d'ailleurs pour votre écoute. D'ici bientôt, la suite des programmes sur Radio Campus Tours. Salut à toutes et à tous.
Salut.
Salut.